La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Il est 7h13, c'est l'heure de retrouver les voix de l'économie. François, vous recevez ce matin le président de NPA Conseil.
Bonjour Philippe Bailly.
Bonjour.
Bienvenue sur Radio Classique. Alors, c'est rare qu'on parle ici, qu'on analyse un passage de relais dans une entreprise, mais là, ça n'est pas n'importe quoi, il s'agit d'M6 et surtout David Laramendi, qu'on ne connaît pas encore, prend la suite d'une figure du paysage audiovisuel français, Nicolas Taverneau. On peut dire que c'est la fin d'une époque, une ère, Taverneau.
Incontestablement, il y a 37 ans, il y avait 5 chaînes en France, 5 chaînes gratuites. Aujourd'hui, il y a 30 chaînes de la TNT, il y a YouTube, il y a les services de la SVOD. L'audiovisuel d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'il y a 37 ans, c'est clair.
Et Taverneau a connu et accompagné toute cette période chez M6.
Et il les a même parfois impulsés et un peu mieux qu'accompagné.
Alors, avant de parler de son bilan, parlez-nous un peu de Nicolas Taverneau lui-même. Il prend rarement, assez peu, on va dire, la parole dans les médias. Tout ce qu'on dit sur lui se résume à une supposée pingrerie sur la politique salariale, on va le dire, et à une redoutable capacité de négociation et de bluff. Est-ce que tout ça est vrai?
Alors, je vais le dire un peu différemment. C'est le prototype du patron couteau suisse, avec au moins trois dimensions. Alors, la dimension financière, vous l'avez rappelé d'une manière un peu acide, ironique, mais en tout cas, clairement, une grosse attention à la bonne tenue des finances de M6. Et aujourd'hui, c'est plus de 20% de rentabilité M6. Et c'était indispensable parce que quand M6 est né, c'était rien face aux géants TF1, face aux géants Antenne 2 et France 3 à l'époque, etc. Donc c'était une chaîne qu'il fallait faire monter et surtout faire survivre dans un premier temps. On a parlé de la petite chaîne qui monte. Au départ, elle est montée vraiment de très très bas et de rien. Donc dimension financière, dimension de négociation, vous l'avez dit aussi. Alors à la fois avec ses partenaires dans le business, en particulier il y a eu la confrontation Le Lait Taverneau qui a...
Donc TF1 M6.
Voilà, qui a fait couler ou employé fait couler des tonnes d'encre et de commentaires. Et puis, en même temps, un vrai sens, une vraie attention au programme. Juste trois exemples. M6 a inventé Capital à un moment où, encore une fois, c'était tout petit, où il y avait le film de TF1 incontournable le dimanche soir, etc., où M6 n'avait pas les moyens de rivaliser, et c'était l'heure de la contre-programmation, puisqu'on n'a pas les moyens de faire la même chose que les autres, faisons différemment. Deuxième chose, c'est Love Story, 2001.
Premier coup de tonnerre dans la télévision française.
Coup de tonnerre, absolument. Gros pari en prime time. Ils ont osé. Et puis le troisième, ça va être dans 2 mois, la finale de l'Euro de foot, qui sera sur M6 pour la première fois, et c'est maintenant M6 qui joue dans la cour des grands, qui est devenu incontestablement le deuxième groupe privé en France. Donc Taverneau, pardon, c'est à la fois un financier, un négociateur, et avec les pouvoirs publics en savent quelque chose, il était toujours très pugnace sur le sujet, et aussi un homme d'intuition de programme.
À l'inverse, est-ce que Nicolas de Taverneau a perdu des batailles commerciales, des bras de fer, a raté des coups, des virages?
Il en a raté un, mais pas lui tout seul. C'est celui de la fusion avec TF1. C'est TF1 et lui qui l'ont loupé. C'est pas de leur fait, c'est celui de l'autorité de la concurrence.
C'est lui qui était promis au poste de patron du nouvel ensemble, hein, si la fusion était allée jusqu'au bout.
Oui, c'est le schéma qui avait été tracé. Encore une fois, l'autorité de la concurrence, avec une vista incroyable, a considéré que l'audiovisuel de 2021-2022, c'était vraiment la même chose qu'en 1987, quand Nicolas Taverneau avait pris ses fonctions, et qu'il n'y avait vraiment pas de nécessité de s'armer face à YouTube, face à Netflix, face dans un monde numérique. Encore une fois, je pense que l'histoire rendra grâce à Benoît Cœuré, le patron de l'autorité de la concurrence, de son côté visionnaire. En tout cas, ça a été un échec pour M6. Je pense globalement que c'est un échec pour le visuel français.
Pour autant, et vous l'avez dit vous-même, le M6, et TF1 d'ailleurs de son côté, vivent plutôt bien, en tout cas sont loin d'être en difficulté à ce stade.
À ce stade, comme vous le dites, M6 était extrêmement rentable, voilà. TF1 est confortablement rentable lui aussi, mais c'est comme dans le film La Haine. Jusque là tout va bien, vous savez, la blague
on tombe quand
voilà, au premier étage tout va encore bien. On est vraiment dans un monde qui dont les fondations tremblent, avec l'ensemble des plates acteurs de la vidéo digitale, gratuite et payante, et donc une bataille qui se mène sur les deux fronts, celui de l'abonnement, ce que les gens sont prêts à payer, mais et celui de la publicité. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, tout va bien, demain, il faudra que David Laramendi soit extrêmement pugnace et fort pour maintenir M6 sur de bons rails.
Justement, David Laramendi, qui prend la tête d'M6, que sait-on de lui, le successeur de Nicolas Tavernot? David Laramendi, nettement moins identifié dans le paysage, hein, à ce stade.
Et c'est naturel. Je dirais, dans une entreprise, vous avez un grand patron, un patron qui focalise un petit peu la lumière, qui focalise la parole. David Laramendi, il est chez M6 depuis 17 ans, donc il connaît très bien la boutique également. Et en particulier, il est patron de la régie depuis 10 ans. Ça veut dire que tout ce qui est ressources, tout ce qui fait les finances et la base du modèle économique d'M6, ça fait déjà 10 ans qu'il pilote. Pour le reste, encore une fois, c'est pas la même personnalité que Tavernot, tant mieux là aussi. Je pense que chercher un copycat,
La question, c'est est-ce qu'il est capable aussi d'être un homme de contenu, de programme, de voir ce qui va marcher pour les téléspectateurs d'M6?
Alors peut-être qu'il faudra que David Laramendi se trouve son Thomas Valentin. Thomas Valentin, dont on parle assez peu, mais qui a accompagné Nicolas Tavernot pendant à peu près l'ensemble de son parcours et qui était avec lui sur tous les choix de programme que j'évoquais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a quelqu'un là aussi de chez M6 qui s'appelle Guillaume Charles, qui a succédé à Thomas Valentin il y a 2 ans.
Un dénicheur des émissions de demain, quoi.
Voilà, et on parlera peut-être demain du tandem Laramendi-Guillaume Charles, comme on a parlé du tandem Tavernot-Valentin.
M6, comme TF1 d'ailleurs, qui tente un nouveau départ dans la diffusion sur Internet avec le streaming gratuit financé par la pub. TF1 Plus, c'est parti. M6 Plus, c'est dans quelques jours, quelques semaines. Est-ce qu'il y a une vraie différence avec leurs précédentes plateformes respectives de streaming, de replay, de leurs offres?
Alors, il y a 3 différences. D'abord, c'est assumé. Jusque-là, on parlait du rattrapage peut-être d'une manière peut-être un petit peu honteuse, enfin pas honteuse, mais en tout cas, c'était par défaut. Le terme même de rattrapage, c'est un peu du par défaut. Maintenant, Rodolphe Elmer a été le premier à le dire, je pense que David Armen le dira demain. Le streaming, c'est devenu une plateforme de destination pour le public, et les chaînes assument d'être présents vraiment sur les deux pieds, en linéaire et en streaming. La deuxième chose, c'est que on met plus et davantage que simplement le direct. Encore une fois, c'est pas simplement du replay, c'est des programmes spécifiques, c'est du prolongement des antennes, c'est pas dû à la demande mais aussi du direct, donc c'est vraiment une plateforme globale. Et le troisième aspect, c'est la distribution, qui est vraiment devenue le nerf de la guerre. On ne passe plus seulement par les box pour regarder la télévision, on utilise son smartphone, son mobile, son ordi, c'est déjà traditionnel, mais beaucoup, et de plus en plus, sa smart TV, sa télévision connectée, et donc TF1 Plus, M6 Plus sont fortement présentes maintenant sur les téléviseurs connectés avec leurs applications. Donc, allez vraiment en avant du public et pas simplement attendre qu'ils viennent vers vous.
Dernière chose, autre petit événement dans le monde de la télé, le retour de l'émission Secret Story, c'est ce soir sur TF1, alors 23h30. Hein. Mais quand même, cette maison des secrets, des candidats qui doivent conserver le secret le plus longtemps possible, après le retour de la Star Academy aussi sur TF1, est-ce que c'est toujours le côté dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes?
On peut le dire comme ça, ou le dire autrement, en télévision, comme dans beaucoup d'autres choses, on se répète ou on se contredit. D'une certaine manière, il vaut mieux se répéter. Et de fait, les formats de divertissement, les formats de jeu, ils sont pas illimités. Il y a des moments où on les peint de couleurs différentes, on leur donne des noms différents. Mais au global, encore une fois, il y a un nombre de formats pas illimités. Et là, aujourd'hui, dans un monde qui est extrêmement fragmenté, le fait de s'appuyer sur des marques connues, sur des marques fortes, ça fonctionne. Et juste 2 exemples, vous avez cité la Star Academy. Je vais en prendre un autre. M6 a relancé il y a quelques semaines le Juste Prix et ça fonctionne très bien. Ce soir, TF1 relance Secret Story. Vous serez couché puisque c'est à 23h30.
Et juste avant, il y a Koh-Lanta.
Et encore une fois, il y a une grosse attente en tout cas face à ce programme.
Philippe Bailly, président de NPA Conseil, merci beaucoup ce matin en direct sur Radio Classique.
Merci messieurs. François, à demain 6h pour la matinale de l'économie. Effectivement, couchez-vous tôt. Dans 2 minutes, les coulisses de la politique, comment se prépare le 2e discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron à la Sorbonne, Radio Classique, 7h22.